minutes, morceau de vie, un hit, une histoire.
Bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue dans Morceau de vie, le podcast d'Alouette. Vous le savez, Morceau de vie explore les secrets de fabrication des hits. Nous sommes ravis d'accueillir dans ce nouvel épisode Mentissa.
Ce qui est fort dans Ebam, c'est qu'elle est plus difficile que ce qu'elle en a l'air.
Mentissa a su captiver les cœurs de millions de fans grâce à son passage dans l'émission The Voice en 2021. Elle a gravi les échelons avec passion, puissance et authenticité pour se hisser jusqu'à la finale et nous offrir un morceau qui résonne. Et bam! Ce hit, créé par Vianney pour la finale, a touché Mentissa.
Quand j'ai écouté les paroles, j'écoutais même pas forcément la mélodie au début, j'écoutais ce que la chanson racontait. Et je me suis dit, waouh, comment il a fait, c'est un génie, comment il a trouvé des mots aussi justes.
Depuis son processus de création jusqu'à l'enregistrement en studio, en passant par les paroles, Mentissa se confie.
La première fois que je l'ai fait en studio, je suis en mode, ah ouais, ok, ça envoie quand même.
Et bam, et bam.
Bonjour Mentissa.
Bonjour.
Nous allons donc nous intéresser à ce titre Ebam sorti, on le rappelle, en 2021. Tout a commencé dans l'émission de The Voice.
Oui.
Raconte-nous un petit peu.
Alors en fait, la discussion a commencé autour du fait que les finalistes de l'émission avaient le droit de proposer une composition originale. C'était une première qu'ils faisaient dans l'émission, donc on était tous très excités et forcément on se met un peu de pression de se dire ok, bah, qu'est-ce que je vais proposer. Et donc dans toutes les chansons que j'avais déjà écrites moi-même, on avait aucune que j'estimais à la hauteur, tout simplement, de proposer dans cette émission-là. Donc j'en parle à Vianney en toute transparence, en lui disant, bon, ok, cette nouveauté, elle est sympa, mais elle me met un peu dans la mouise, quoi. Et il me dit tout de suite, il me dit, non mais t'inquiète, si c'est ça, je t'en écrirai une. Et tout de suite, en fait, la conversation, elle commence comme ça. Et arrivé, du coup, au moment de la demi-finale, juste quand je passe du coup de demi-finale en finale, il me dit, bah écoute, je t'avais promis que j'allais t'en écrire une, donc je l'ai fait. Et il me dit, voilà, sache que c'est une chanson que je t'ai écrite sur mesure, qui parle tout simplement de qui tu es, pourquoi t'es venu là et de ton aventure. En fait, la chanson, elle parle vraiment finalement
de ton parcours artistique.
De mon parcours artistique. Et donc il la chante au piano, donc la première fois je l'écoute quand même avec la voix de Vianney au piano.
Et là, vous êtes dans une... Vous êtes quoi? Dans un studio? Vous
on
êtes
est chez lui.
Chez lui,
vraiment,
tranquille.
C'était la première fois aussi qu'il m'invitait chez lui. Donc pour moi, c'était quand même très... Enfin, j'étais très honorée parce que je sais comment
c'est. Marque de confiance, quoi.
Voilà, quand on est connu et tout, ça ne doit pas être facile d'inviter des gens dans son privé. Et juste le fait qu'il fasse ça, je me suis dit, ok, on a passé un autre cap. On dépasse un peu le cap d'émission, de coach talent. On est vraiment sur un truc où il me fait confiance et il m'invite dans son intimité. Ouais. Et donc juste déjà ça, j'étais en mode, oh mon Dieu, je suis déjà c'était un peu intimidant au début. Je rappelle, j'étais dans la cuisine, je ne bougeais pas. J'étais genre comme ça, assis
bonjour,
sur une chaise.
Bonjour, oui. Je n'ose pas bouger, j'imagine.
Et puis petit à petit, on se met à l'aise. Et puis il m'a chanté bam au piano. Et puis forcément, la suite, c'était évident. En fait, quand j'ai écouté les paroles, j'écoutais même pas forcément la mélodie au début. J'écoutais ce que la chanson racontait. Et je me suis dit, waouh, comment il a fait, c'est un génie. Comment il a trouvé des mots aussi justes pour me décrire et décrire ce que je ressens. Après, je pense que quand on a cette envie de devenir artiste, je pense qu'on ressent tous un peu cette ambition-là. Mais que ce soit aussi juste et qu'il parle de ma maman, chose dont je n'avais jamais parlé avec lui, par exemple, j'ai trouvé ça très impressionnant.
Ouais. Voilà. Donc il t'a touché. Et après, il faut s'approprier la chanson.
C'est
parce
ça.
Que c'est lui qui l'interprète.
Exactement.
Pour... Voilà, la voix témoin, on va dire. Maintenant, comment tu étais? Dans quel état d'esprit? Parce que quand tu te l'appropries, c'est pas facile.
Non, et surtout que moi et Vianney, forcément, on n'a pas la même voix, donc on n'a pas du tout le même phrasé, ni la même manière de chanter. Donc au début, je me dis, oh, ça passe bien à travers sa bouche. Est-ce que ça va être aussi bien dans la mienne?
Ouais, on se met une pression, quoi.
Mais on se met une pression, forcément. Ouais. Et donc, en fait, ce qui a été très beau, c'est que rares sont les fois où je ne réfléchis pas quand je chante. Je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête. Et là, pour Ebam, en fait, la première session studio avec Vianney, on n'est que tous les deux. Et en fait, je la chante, je la raconte. Je ne suis pas en train de me dire, ah, il faut que ma voix, elle ressemble à ci ou à ça. C'est vraiment, en fait, je raconte les mots et je donne l'émotion qui, à ce moment-là, me semble le plus juste. Et en fait, ça a roulé. Même en fait, quand je l'ai réécouté après, je me suis dit, waouh, il y avait une réelle émotion. En fait, il y a une démo que personne ne connaît. Mais en fait, il y a une démo, forcément, qu'il fallait envoyer. À l'émission. Et en fait, l'émotion pour moi, c'était pile poil dedans. Et je pense que c'est pour ça que cette chanson a parlé à beaucoup de gens, parce que l'émotion, c'est vrai.
Ouais.
Je trichais pas quand je chantais cette chanson.
Limite, la première que tu as faite, la première version, on aurait pu la sortir en radio, quoi.
Bah, je sais pas si. En fait, peut-être vocalement, je pense que j'aurais pas été satisfaite, mais en termes d'émotion, ouais. Oui, je pense que c'était probablement la meilleure.
Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as interprété lors de la finale de The Voice?
Bah, j'étais un peu stressée parce que la manière dont je chantais Ebam au début, c'est plus du tout comment je la chante aujourd'hui. Ouais. Après l'avoir chantée 150 fois, ça va, on est assez à l'aise. Mais au tout début, c'est quand même une chanson impressionnante, ouais. Quand même.
Il y avait le stress en plus de l'émission.
Il y avait le stress de l'émission. Il y avait plein de trucs et puis il y a un peu cette folie de ah c'est la fin, c'est la finale, tout est waoui et donc du coup t'es un peu sous shot d'adrénaline et donc il y avait ce truc là aussi où il faut réussir à redescendre pour commencer et commencer sereinement, ouais. Et chanter et être en étant sur ses appuis quoi.
Tu l'as réécouté cette version?
Je l'ai écouté bien sûr.
Ouais.
Enfin, au début c'était la seule version.
Et maintenant t'es très critique. Ouais, t'étais critique.
Non mais c'était pas ouf hein. On va dire la vérité. C'était pas ouf du tout. Mais il faut être indulgent. Il faut savoir que c'était une finale, qu'il était peut-être je sais pas minuit, 1h du matin, que toute la pression était redescendue parce qu'on avait déjà eu les résultats à ce moment-là. Il y avait une réelle émotion de fin aussi. Ça ouais. Faisait des mois qu'on tournait avec l'équipe de l'émission et tout, donc il y avait aussi cette nostalgie, tout ça en fait était dans cette prestation. Donc certes c'était peut-être pas juste, mais c'était juste en émotion.
On écoute un petit extrait,
okay.
Le début de cette version en mode finale de The Voice.
On y va, let's go.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord. Et Paris qui s'étale.
En termes de voix, elle est difficile cette chanson à interpréter. Elle est costaud ou pas?
Elle est...
On se rend pas compte nous, on n'est pas chanteurs.
Oui, elle est. En fait, elle est plus difficile. En fait, ce qui est fort dans Ebam, c'est qu'elle est plus difficile que ce qu'elle en a l'air. En fait, quand on l'écoute, on se dit ouais, ça coule de source, easy peasy. En fait, quand on s'attaque un peu, même moi, en général, c'est les refrains. Les couplets sont assez cool. Les refrains, ça envoie un tout petit peu. Et puis la fin, on rajoute encore une couche. Faut savoir que quand Vianney l'a composé, forcément, il a composé dans sa tonalité. Ouais. Donc, il a fait des notes de ouf et tout. Mais sauf que quand tu transposes et que tu augmentes la tonalité, du coup, tout augmente aussi. Donc, il y avait ce truc-là où la première fois que je l'ai fait en studio, je suis en mode « Ah ouais, ok, ça envoie quand même ouais. ». Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'à la fois, il y a cette pudeur et cette douceur au début, cette timidité. Et après, petit à petit, on sent à la fin que j'incarne une vraie force et une confiance. Donc, c'est ouais. Ebam, quoi.
Ebam, Ebam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Ebam, Ebam, sur la musique.
Il y a aussi la mélodie, tu l'as dit. Alors au début, toi, tu t'es focalisé sur le texte, hein, c'est ce qui t'a touché en premier. Oui. Après, il y a la mélodie qui est très importante, qui est très belle. Comment est-ce que tu as rajouté des choses? Est-ce que tu as donné un petit peu ton avis en disant, tiens, moi, je préférerais, voilà, passer plus ça. Comment ça s'est passé?
Alors en vrai, non. En fait, la mélodie me plaisait beaucoup.
Ouais.
Je suis quelqu'un d'assez difficile en plus sur les mélos, mais en fait, tout me plaisait. Et puis encore une fois, Ebam, c'est vraiment une chanson que je n'ai pas cherché à chanter, mais que j'ai vraiment cherché à raconter. En fait, c'était mon histoire. Donc, en fait, la mélodie, en fait, après, elle suit presque le texte. Quand les mots sont bien posés, je pense qu'en fait, la mélodie, peu importe comment tu l'as fait, ça passe.
Ouais.
Et il y avait ce truc-là où, oui, forcément, avec ma voix, j'ai tendance à faire parfois des petites vibes ou des petits trucs comme ça, ou parfois, je peux avoir la voix un peu plus rauque quand j'en vois un peu plus. Mais sinon, non, on est resté sur une base que Vianney avait fait, en fait.
Après l'émission, Mentissa va rentrer en studio pour enregistrer le titre pour le proposer aux radios en apportant de petits ajustements.
Me l'approprier un peu plus à certains endroits, oser pousser un peu plus, etc. C'était des petits ajustements parce que je pense qu'au fond, l'émotion dont on avait besoin pour cette chanson, elle y était déjà.
Ouais, avec le coaching de Vianney.
Exactement,
la classe.
C'était tous les deux. Ouais. Ouais, Vianney, en studio.
Donc, il t'a donné des conseils.
Exactement.
Dit, voilà.
Il me disait, bah, je sais pas, au début, il allait peut-être me dire, oui, bah, essaye de plus insister sur ce mot-là, ou essaye d'être un peu plus douce, ou essaye d'être justement rajouter un peu plus de. Donc, c'était plus des trucs comme ça. Mais en vrai, Vianney, c'est quelqu'un qui me laisse beaucoup de liberté.
Et donc, il me
laisse. Ouais. Oui,
il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'échanges.
Mais bien
et
sûr.
C'est facile de lui dire bah non, moi, je préfère comme ça ou pas, même
sûr.
Si. Ouais.
Oui, oui, oui.
Parce que, bon, impressionné peut-être aussi, parce que, bah, voilà, il y a Vianney.
Bah, c'est ça. Bah, en fait, je pense qu'à cette étape-là, quand on est arrivé à l'étape de l'enregistrer pour de vrai, je pense que ça va. L'intimidation commençait à tout petit peu à disparaître, donc j'osais plus aussi donner mon avis.
Ouais.
Envoler mon enfance. Mais jamais rien n'efface les rêves ou la violence. Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets.
Et alors après, il y a la sortie radio, sortie voilà, sur les plateformes aussi. Comment tu vis ça, toi, à l'époque?
Bah, c'est spécial parce que c'est la toute première fois que tu sors quelque chose, un single, une chanson. Vraiment, c'est la toute première chose que les gens ont de toi. Et donc, il y avait une excitation. Et puis, forcément, on a des attentes. Alors, on essaye quand même de se dire, il ne faut pas justement trop se mettre la pression. Si ça prend, tant mieux. Si ça ne prend pas, ce n'est pas grave. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même des attentes. Mais j'étais très loin de m'imaginer que cette chanson irait aussi loin. Ouais. Ça, je pense que même dans mon rêve le plus fou, je ne me serais pas dit que Ebam deviendrait... Enfin, ce premier single deviendrait un single d'or et que juste sur un single, ça m'a permis de faire tant de choses en un an.
Non, ça t'a ouvert des portes de fou.
Ça m'a ouvert beaucoup de portes.
Beaucoup de portes, on est bien d'accord.
Bien sûr.
Comment toi, t'as vécu ça? Parce que, voilà, il y a eu le succès, mais c'est monté très, très vite. Au quotidien, comment t'as vécu ça?
Alors, je l'ai vécu très bien, pour la simple et bonne raison que je suis très bien entourée. Alors, je pense que c'est une des choses les plus importantes, et je le dis vraiment pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre une carrière quelconque. L'entourage est très, très, très important. C'est même primordial. Parce que j'étais entourée de personnes, un peu à l'image de Vianney, hein. Voilà, tous les gens au sein de Tôt ou Tard, c'est un peu une petite famille, c'est un petit label. Et en fait, c'est des gens humbles, simples, bienveillants et qui prennent soin de leur artiste.
Ouais.
Donc, j'ai vraiment senti qu'on prenait soin de moi, que j'étais écoutée, que ma parole était valorisée. Et ça a fait que, en fait, on ne me mettait pas non plus sur un piédestal en mode « Ouais, mais si ça, t'es la meilleure, tu vas tout bombarder !» Non, mais on te met en confiance en te disant « T'as ta place, t'es talentueuse. » Et ça, en fait, le fait d'être au sein d'une famille, mais ne pas non plus être au sein, je pense, d'une major, où il y a tout ce truc-là, où on te met plein de trucs dans la tête, ça a fait que finalement, j'avais l'impression d'être quelqu'un de tout à fait normal. Et à aucun moment, j'ai senti, on va dire, l'effet, notoriété, business, tout ça. Je ne l'ai pas senti du tout. Et puis, il y a ma maman aussi qui est quand même très... voilà, il ne faut pas oublier d'où tu viens, cocotte, parce que sinon, je vais te le rappeler très vite.
Et justement, j'allais enchaîner avec ta famille. Donc, il y a maman qui... Eh oui,
voilà,
tu feras...
c'est ça.
Ma chérie, tu feras la vaisselle ce soir.
Et
c'est pas
sûr,
parce que tu passes à la radio.
Tout à fait. Voilà, pas de souci.
En gros, c'est ça. À la maison, c'est pas Mentissa de la télé ou de la radio.
Non, c'est ça. C'est qu'en fait, rien n'a changé à la maison. Au sein de mon label, c'était cool. Et puis, je pense que, de manière générale, c'est dans ma nature d'être. Je suis quelqu'un qui... J'aime bien l'idée de se dire qu'en fait, je suis une fille normale comme tout le monde, je suis très abordable. Et donc, du coup, c'est pour ça que je tenais vraiment à rester vraiment la même. Et je tiens d'ailleurs toujours aujourd'hui vraiment à rester la même qu'on l'a vu débuter il y a 2 ans sur TF1. Quoi.
Et bam, il sonne comment ce titre sur scène? Est-ce que tu y pensais quand tu as enregistré la version studio pour les radios, les télés, les plateformes? Tu l'imaginais tout de suite sur scène ou tu t'es dit step by step, on verra
toujours.
Après?
En fait, moi, je suis assez indulgente, c'est-à-dire que je n'aime pas l'idée de faire un truc en studio que je ne vais pas pouvoir reproduire sur scène.
D'accord.
Donc, en général, même, je me mets un peu trop la pression, justement, de me dire, mais tout ce que j'ai fait, la moindre note, là, ce que j'ai fait là, il faut que je dois être capable de le faire sur scène. Donc, tout de suite, en fait, je me suis dit, ah oui, ça envoie quand même. Donc, au début, forcément, il y a des fois où c'est bien, il y a des fois où c'est moins bien, et puis petit à petit, ça roulait. Et puis, en fait, et bam, comme je dis, c'est vraiment une chanson que j'aime raconter avant de la chanter. Donc, en vrai, elle a jamais été pareille. Je pense qu'il y a des fois où elle est un tout petit peu plus douce, il y a des fois où j'en vois un peu plus. Donc voilà, c'est toujours une nouvelle version finalement des
Babs. On se souvient d'un live Alouette au Futuroscope où tu nous avais interprété ce titre avec beaucoup d'émotion. Comment tu vis la suite? Il y a eu bien évidemment l'album La Vingtaine qui est sorti après en novembre 2022. Il y a Les Enfoirés qui sont arrivés. Il y a une révélation Victoire de la Musique. Là, il y a The Voice Coach maintenant, hein, Madame la Coach, pour The Voice Belgique en saison 11. Comment ça va?
Ça va. En fait, c'est vrai que quand on empile tout comme ça, qu'on fait la petite liste, on se dit waouh.
Et elle envoie la petite. Hein.
Quand même quoi. On en a fait des choses. Ça va super. Ce qui a été dur et ce qui est toujours dur de toute façon quand on est jeune, même peu importe l'âge finalement, c'est la pression. C'est la pression qu'on se met, hein, pas forcément la pression de l'entourage, mais juste la pression qu'on se met de se dire qu'il faut toujours être au rendez-vous, faut prouver sa place. On est nouveau, donc il faut montrer qu'on est légitime. Et ce truc-là, en fait, c'est aussi une histoire de confiance en soi, beaucoup de « est-ce que tu trouves que tu mérites ou tu ne mérites pas ?» Et toutes ces choses-là, je pense que c'est ça qui... C'est, en tout cas, je pense que c'est ce qui a été le plus dur à gérer pour moi depuis mon aventure qui a commencé il y a 2 ans maintenant. Musicalement, je suis très fière de ce que j'ai fait, parce que ça me ressemble, parce que c'est ce que j'avais envie de raconter. Voilà, je voulais un album qui racontait un peu la suite des BAM, hein, finalement, genre qui je suis. Je voulais que les gens apprennent à me connaître à travers cet album. Donc ça, c'était cool. Après, c'était vraiment la pression, quoi.
Ouais.
De réussir à gérer et d'enlever de sa tête qu'il faut une certaine perfection, que ce soit sur scène ou vocale ou même physique, de se dire qu'on est unique et que dans cette authenticité, bien sûr, il y a des failles. Et encore heureux, c'est ce qui nous rend beau.
Physiquement, il faut tenir aussi, parce que c'est un sûr. Planning hyper chargé.
C'est un rythme et qui est dur, parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. J'ai tendance à beaucoup réfléchir le soir, donc du coup, je m'endors tard. Quand je m'endors tard, et ben, il faut se réveiller tôt. Et donc, parfois, c'est vrai que j'accumule un peu un certain retard de fatigue. Enfin, petite fatigue.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Franchement, on peut me souhaiter... de continuer ce que je fais, parce que vraiment je pense que je suis très épanouie, parce
mais
que vraiment,
ça se voit et ça s'entend.
Je suis à ma place, je suis comme un poisson dans l'eau, c'est ce que j'aime faire, donc on peut me souhaiter juste que ça continue de plus belle, et puis surtout une paix intérieure, vraiment que je puisse faire ce métier d'artiste en étant vraiment en paix avec moi-même et heureuse.
Nos stress,
chill vibes, exactement. Et puis on peut surtout me souhaiter que je reste telle que je suis. Pour moi, c'est...
Mais je pense que tu vas rester telle que tu es, parce que je pense que même Tissa, elle a les pieds sur terre.
C'est important.
C'est important. Merci mille fois, en tout cas, d'avoir pris quelques minutes avec nous dans
plaisir,
ce podcast et nous avoir raconté l'histoire des BAM. Voilà, ce titre incroyable. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Et BAM. Je veux pas l'Amérique. Je veux cette guerre qui bat et bam, mes bombes sur la musique. Messieurs, mesdames, me voilà. Je veux pas l'Amérique. Je veux cette
Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Morceaux de Vie. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes pour ne louper aucun épisode. À très vite.